Le Grand Talk Show, 17h-18h.
Le dernier grand talk show de la semaine, c'est maintenant. Juliette Croc et Antoine Jégat m'ont rejoint au studio. Bonjour.
Bonjour, Solène.
Alors, vous êtes accompagnés de vos invités, Bernard Collot et Luc Domergue. Ils présentent l'école du troisième type, une approche de l'école différente. Juliette et Antoine, c'est à vous.
Bonjour, messieurs, pour commencer.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, le système scolaire fait souvent débat, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'une nouvelle forme d'éducation pourrait émerger, donc ce qui est l'école du troisième type, fondée sur l'autogestion. Bernard Collot, donc, vous êtes un ancien instituteur, vous êtes avec nous pour l'évoquer, ainsi que monsieur Luc Domergue, éducateur spécialisé et thérapeute. Donc, pour commencer, donc, vous êtes aussi dans une association. Pouvez-vous nous en parler? Donc, l'école du Bagnan, c'est bien ça?
Alors ça c'est non, c'est l'association
à l'ombre du Bagnan,
voilà, à l'ombre du Bagnan, qui est porteuse du projet d'école démocratique, voilà. Et donc c'est grâce à elle que Bernard Collot est présent ce soir. Donc cette association est portée par trois personnes, Rosée Narel, ici présente dans les studios avec nous, ainsi que Satya Eskenazi et moi-même. Donc voilà, donc c'est cette association qui est porteuse de ce projet d'école qui est en bonne voie. On y travaille d'arrache-pied depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, presque une année maintenant, et ça demande du temps, de l'engagement, mais ça va finir par voir le jour.
Ça va voir le jour dans combien de temps, à votre avis?
C'est difficile de vous donner une réponse maintenant, mais on reviendra à la rentrée pour développer plus en détail ce projet d'école démocratique qui a lieu au sud du département, du côté de...
Pour des comptes.
Au sud du département, donc voilà, il n'y a pas encore de lieu totalement arrêté pour le moment, mais...
C'est la petite surprise.
Voilà, c'est la petite surprise de la rentrée qui se prépare, même l'été on va travailler sur ce projet, oui, en effet.
Alors, l'école du troisième type, c'est une école sans horaire, si on a bien compris, sans leçon définie, sans évaluation, ouverte en permanence aux parents. Il est important pour vous que les parents puissent assister à ces rencontres,
Monsieur Collot?
Bien sûr, des parents. Un enfant sans parents, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est vrai que si les enfants n'avaient pas de parents, ça arrangerait beaucoup l'école. Donc, pour moi, c'est tout simple. Il est impossible que les parents soient exclus de l'école, que la séparation entre enfants et parents brutale soit quotidienne. C'est tout simplement psychologiquement, affectivement et cognitivement impossible.
Vous signifiez que cette séparation, par exemple, du premier jour d'école que l'on a tous plus ou moins connu, est un petit peu trop violente pour les enfants?
Ah bien sûr. Pensez à deux choses. Pensez à la naissance. Dans les années 70, Frédéric Le Boyer, en particulier, a bien fait comprendre à tout le monde que cette rupture-là ne pouvait pas se passer de la façon dont on l'effectuait généralement, quoi. Pensez au sevrage. Bon, maintenant on sait que le sevrage, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, que ce n'est pas seulement un changement d'alimentation, quoi. Eh bien, si vous pensez à l'école, tous les jours, c'est une rupture, ça, brutale. Donc déjà, d'une façon psychologique, c'est pas soutenable en quelque sorte.
Donc vous signifiez que l'éducation scolaire est une distanciation de l'éducation parentale?
L'éducation scolaire, il y a toute son histoire. L'école publique, dès son origine, c'était pas pour l'épanouissement des enfants, c'était pour arracher les enfants à la mauvaise influence familiale, pour en faire, pour Guizot, c'était de bons sujets et de bons catholiques, pour Jules Ferry, c'était de bons citoyens, et puis... lutter contre l'influence de l'Église, voilà. Donc l'école publique, ses finalités ont toujours été des finalités étatiques, même quand ensuite, dans les discours, on essaye d'arranger un petit peu ça, quoi.
Une école du troisième type, pourquoi la nommer ainsi? Parce que pour reprendre vos termes, rien ne se passe comme ailleurs, il me semble.
Oui, mais c'est toute une histoire, en somme. Dans les années 90, Marcel Tria, d'envoyé spécial, donc devait faire une émission pour la 2, pour envoyé spécial. Il avait vu pendant un mois beaucoup d'écoles, beaucoup d'enseignants, etc. Et notre classe unique de Moussac était la dernière. Et lorsqu'il est arrivé, avec son cadreur et son preneur de sang, ils m'ont dit, on a cru débarquer sur une autre planète. D'où rencontre du troisième type de Spielberg.
Troisième dimension.
Et voilà, école de troisième type. Donc, une école de troisième type, les écoles démocratiques sont des écoles de troisième type, certaines écoles qui ont démarré Montessori ou qui ont démarré Freinet, etc., peuvent arriver à être cette autre planète, en somme, où toute personne qui rentre dans ces écoles ne comprend plus rien, quoi.
Alors, Montessori et Freinet, nous y reviendrons un petit peu plus tard, justement.
Mais tout de suite, on va parler de Steiner, qui lui avait une journée structurée en trois temps, donc main, tête, cœur. Et dans l'école du troisième type, c'est la réunion qui structurait la journée. Donc pourquoi c'est ce moment-là qui serait important dans la journée?
Parce qu'on considère que une école doit petit à petit constituer un système vivant, une entité. Comme la famille constitue un système vivant, constitue une entité. Donc il faut arriver à ce que cet espace-là, les enfants se l'approprient, évidemment, puissent être libres d'être d'abord, hein, et libres de faire, en quelque sorte. Bon, mais il faut, pour aider à ce que ce système qui est artificiel, hein, une école c'est complètement artificiel, alors que la famille est un milieu naturel. Bon, il faut mettre en place ce que j'ai appelé moi une structure dissipative pour que l'interrelation, la communication puisse être permanente, hein, en quelque sorte. Et dans cette structure, il y a l'espace-temps qu'on appelle, nous, réunion, est un moment fondamental. C'est là où tout le monde a la sensation d'être avec les autres, même physiquement. C'est là que les uns et les autres apprennent à se reconnaître, à se faire confiance.
Se reconnaître, pas forcément visuellement, mais aussi par d'autres sens, le toucher ou...
Oui, le mot reconnaître. Connaissance, hein, on peut mettre un petit tiret entre, c'est fondamental, même chez les adultes d'ailleurs. Le monde adulte souffre de cette non-reconnaissance des uns et des autres, bah, qui amène l'agressivité, qui amène les conflits. Enfin, bon, je pense qu'on a les exemples suffisants sous les yeux tous les jours pour comprendre ça, quoi.
Cette reconnaissance, elle serait amenée par le biais d'un échange particulier avec chaque enfant? C'est-à-dire un échange particulier, oui.
Mais c'est la vie qui provoque les échanges. C'est la vie, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est ce qui s'est passé, ce sont les émotions, ce sont la curiosité, les envies. C'est ce qui fait le fondement de l'interrelation, quoi. Donc il faut aussi que chacun puisse se sentir libre, arriver à être libre par rapport aux autres, pour pouvoir s'exprimer, proposer, faire, etc.
Dans l'approche qui est proposée, vous évoquez la suppression de notes. Vous pensez que les enfants aujourd'hui accordent trop d'importance justement aux notes et éventuellement aux jugements, aux classements qui en découlent?
Ben, ce sont pas les enfants, hein, c'est nous. Qui faisons ce qu'il faut pour qu'ils accordent de grande importance à ça.
Et de fait, les enfants aussi, par la suite.
Mais bien sûr, ben, c'est ce qu'on appelle le formatage. Bon, alors, c'est pas un formatage volontaire. Aucun enseignant, je pense, ou il peut y avoir quelques cas particuliers, hein, ou pathologiques, mais aucun enseignant ne pense vouloir formater les enfants. Mais c'est tout le système tel qu'il est conçu qui les formate par la force des choses. Par la force des choses. Bon, alors les notes, ça n'a aucun sens. Les notes sont des chiffres pour rentrer dans des tableaux, dans des statistiques, etc. Mais ça n'évalue rien du tout. Et on arrive à un moment quand même où quelle est l'identité des enfants? C'est une note. Bon, moi je suis un 6, hein, 6 sur 20. Bon, on peut traduire, moi je suis un bon élève ou moi je suis un mauvais élève. Et l'enfant, ben, il arrive à n'être plus que cela.
Donc pour vous, la suppression de notes serait quand même libérer les enfants quelque part?
Ah oui, 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 bien sûr, parce que du coup, ça permettrait vraiment à l'enfant d'exister dans toute sa singularité et de pas uniquement être associé, comme dit Bernard, à un simple chiffre. Donc, du coup, ce serait vraiment une expérience pour lui de pouvoir se connaître dans toutes ses facultés, dans toutes ses potentialités, quoi. Et pas que intellectuel.
Pardon.
Non, mais voilà, parce que la note, elle va peut-être à un moment donné sanctionner des travaux intellectuels. Bon, voilà, donc ça réduit un peu finalement l'enfant.
Et il y aurait un petit peu plus de place dans ce système, dans cette approche, pour de la créativité chez l'enfant, la développer, peut-être l'amener différemment.
Pensez à une chose. Pensez comment tous les enfants ont appris à parler. Bon, tout le monde le, j'allais dire tout le monde le sait, hein, tous ceux qui ont eu des enfants, des frères, des sœurs, ils le savent. Or, c'est le langage le plus complexe qu'un petit humain ait à se construire.
C'est la langue.
C'est long, on n'imagine pas, mais on pourrait en parler pendant des jours, tellement c'est extraordinaire ce que des enfants à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, font lorsqu'ils parlent. C'est au niveau cérébral, au niveau neurobiologique, c'est absolument fabuleux. Et il n'y a aucun autre apprentissage qui ne se construit pas de la même façon. Mais est-ce que lorsque les enfants apprennent à parler, les parents sont là à évaluer sans arrêt, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il n'est pas en retard, est-ce qu'il n'est pas en avance, etc. L'évaluation, c'est ce qu'on fait tous les jours avec l'enfant, ce qu'on voit tous les jours. Bah, oui, on sait qu'il commence à crapahuter sur sa couverture. Il n'y a pas besoin d'aller faire des tests pour s'en apercevoir. Il suffit de regarder vivre les enfants et de vivre avec eux et de les aider quand ils le demandent.
Mais du coup, pour revenir au fait des notes, est-ce que le fait d'enlever les notes, le fait d'enlever les notes, sur quoi on se baserait pour faire passer les enfants d'une classe à l'autre? Car aujourd'hui, c'est ça qui est primordial.
Ouais, c'est tout simple. Il faut pas. C'est le problème de la construction, de la conception du système éducatif qui est c'est une chaîne industrielle. Vous avez des cases, les unes à côté des autres. Dans l'architecture d'ailleurs des écoles, on le voit, un grand couloir. Et puis vous avez tel âge, vous êtes dans cette case. Vous avez un an de plus, vous passez dans la case suivante, à condition
d'avoir des bonnes notes.
Non, à condition que l'ouvrier spécialisé, qui est finalement un enseignant dans une chaîne industrielle, ils aient bien greffé les bons morceaux de programme sur... parce que j'allais pas dire l'enfant, parce que c'est plus un enfant, c'est un objet, c'est un élève. Pour que ensuite, dans la case suivante, l'ouvrier spécialisé, qui est l'autre enseignant, ne puisse pas dire, mais attends, je peux pas passer, bon, je peux pas greffer mes morceaux de programme parce que tu n'as pas ce que tu me passes, ben c'est incomplet. Donc c'est la chaîne industrielle qui demande ça. Donc le problème, c'est pour supprimer cette chaîne industrielle.
Mais en parlant de chaîne industrielle, les ouvriers ont souvent des horaires fixes. Et là, on parle de supprimer les horaires. Ça veut dire quoi? Que les enfants pourraient choisir leurs horaires, Monsieur Domergue?
Oui, tout à fait. En effet, il n'y a plus d'horaires, il n'y a plus du tout de cadre. On part du principe que l'enfant fait ce qu'il a envie de faire quand il en a envie. Parce que finalement, c'est l'enthousiasme qui va lui créer cette envie d'apprendre et qui va lui permettre après de mieux mémoriser ses apprentissages. Voilà, c'est pas imposé. On voit bien que quand on nous impose de vouloir savoir quelque chose, bah finalement ça rentre pas, ou ça rentre par une oreille et puis ça ressort par l'autre, ou alors je recrache ce qu'on m'a dit parce que comme ça je me comporte bien, donc c'est bon, j'ai compris le système, voilà, et c'est ce qu'il faut que je fasse. Et souvent c'est un peu ce qu'on trouve quand même dans le système actuel. Donc là, l'idée, c'est vraiment de stopper les classes, d'arrêter les notes, et de vraiment laisser l'enfant spontanément, dans sa créativité, aller ce vers quoi il a envie d'aller, tout simplement.
Et venir, les enfants choisissent leurs horaires, ça veut dire concrètement quoi? Qu'ils peuvent venir de 9h à midi s'ils le souhaitent, de 14h à 17h, ou alors il y a vraiment des plages horaires définies de 9h à 17h, mais ils choisissent le temps dans lequel ils veulent éduquer.
Après, ça méritera à la rentrée peut-être du coup de développer davantage comment nous on conçoit notre fonctionnement dans cette école démocratique. Après, je pense qu'il peut être, sans trop m'avancer, dès à présent, intéressant quand même que l'enfant passe des journées complètes à l'école, plus que sur des temps comme ça, morcelés d'une matinée ou d'une après-midi. Parce qu'il y a aussi tout un vivre ensemble, en collectivité, et donc c'est intéressant pour l'enfant d'expérimenter ce vivre ensemble.
Vous voulez mettre ce système en place juste en élémentaire ou aussi en secondaire, donc primaire, maternelle, ou alors lycée, ou alors tout tant qu'à faire?
Bah, c'est prévu, c'est organisé pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Voilà. Donc ça laisse déjà de quoi faire pas mal de choses. Mais non, le lycée, c'est pas encore quelque chose qui est présent aujourd'hui.
Pourquoi ne pas être resté sur le modèle d'une école du second type ?
Monsieur Collot.
Oui, bon, alors, on pourrait placer, par exemple, les écoles qui appliquent la pédagogie Freinet ou la pédagogie Montessori dans des écoles de second type. Parce que ces pédagogies, qui sont une grande ouverture, hein, pour moi, c'est la base même. Ces écoles ont un cadre. Dans la pédagogie Freinet, par exemple, bon, il y a le temps pour les mathématiques, le temps pour l'écrit, le temps pour les expériences, etc. Donc il y a un cadre dans la pédagogie Montessori, c'est un petit peu pareil. Donc il y a un cadre. Ce cadre, il est important au départ parce qu'il permet justement cette conquête de la liberté, cette transformation des comportements, etc. Mais au bout d'un certain temps, ben vous n'en avez plus besoin. Au bout d'un certain temps, vous n'en avez plus besoin. Et si vous voulez respecter les rythmes des enfants, les rythmes physiologiques, mais aussi les rythmes cognitifs, et ben à ce moment-là, vous ne pouvez plus découper ça dans du temps. C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Alors justement, on va élargir un petit peu sur les pédagogies Freinet que vous venez et Montessori que vous venez d'évoquer. Donc la pédagogie Freinet, pour nos éditeurs, c'est la libre expression des enfants de l'écrit à l'art, en passant par l'art. Et Montessori, donc on s'adapte à un enfant en suivant ses périodes d'évolution, des périodes données. Comment voyez-vous ces techniques, cet apprentissage ?
Ben, ce que je vous ai dit... C'est la base. Pour moi, c'est la base parce que les enfants et nous-mêmes, on n'est pas du tout habitués à la liberté, par exemple. La liberté, c'est quelque chose que personne ne connaît vraiment. Donc, elle se construit. Il faut qu'elle se construise, la liberté. Et je pense qu'au départ, elle a besoin qu'on l'aide à se construire. Et pour moi, les cadres de la pédagogie Freinet et les cas ou ceux de la pédagogie Montessori sont vraiment une base, quoi. On peut parler aussi des écoles Steiner. Pour moi, c'est un peu plus diffus. Mais ce sont des bases, en somme, pour arriver à changer de comportement, à changer sa façon de voir les choses, et aux enseignants à changer leur regard sur les enfants.
Ouvrir, en somme, tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux.
Absolument.
Oui, voilà, parce que du coup, ce que je voudrais ajouter au propos de Bernard, c'est que ces grands pédagogues, Steiner, Montessori, Freinet, ils ont quand même mis le focus sur le développement de l'être humain avant vraiment de vouloir transmettre de façon verticale des savoirs et d'en faire des têtes bien pensantes. C'était d'abord vraiment, je reprends ce terme-là, hein, de focus sur le développement de l'enfant dans le respect de lui-même. Donc c'est là où ces écoles-là se dirigent, vraiment d'accompagner l'enfant à se connaître lui-même, à se respecter lui-même, à identifier ses besoins.
Donc une personnalisation, monsieur Domergue, quelque part, monsieur.
Oui, tout à fait.
Oui, je rajouterais même, c'est être parmi les autres. Parce que y a cette dimension.
Est-ce que vous pensez que le fait de supprimer les contraintes actuelles du système scolaire pourrait éviter toutes sortes de dys, donc par exemple la dyslexie ou il y a d'autres que je n'ai pas en tête, mais ça pourrait les supprimer ?
Alors, ça ne supprimera pas la dyslexie. À ce moment-là, ça c'est le travail des thérapeutes. Mais par contre, lorsqu'un enfant se trouve dans des activités où on ne lui impose pas de méthode, où on ne lui impose pas de contraintes, de résultats, etc., à ce moment-là, il est connu que leur cerveau, eh bien, il va faire avec, si c'est un handicap, ben, il va faire avec cet handicap, etc. Moi, en 40 ans de carrière, eh bien, j'ai obligatoirement eu des enfants qui étaient dyslexiques, dyscalculiques, etc. C'est obligatoire. Ben, on s'en est pas aperçu. Parce que lorsque vous pouvez évoluer, suivant vos intérêts, etc., à ce moment-là, votre cerveau, lui, il va trouver des chemins détournés et souvent pas les mêmes que ceux qu'on pense que le cerveau doit prendre. Parce que tout le problème de l'école, c'est qu'elle pense savoir comment le cerveau fonctionne. Et le problème des méthodes, c'est ça. Vous pensez que le cerveau fonctionne en traduisant d'abord en son, etc. Donc vous imposez à tous les cerveaux de fonctionner de cette façon. Bon, alors si par chance, il y a des cerveaux que ça leur va, pas de problème. Mais malheureusement, on sait que pas un cerveau ne fonctionne de la même façon. Et ça, c'est une certitude, ça. Au moins, des neurobiologistes comme Alain Berthoz, c'est ce qu'ils développent, quoi.
Alors, on approche de la fin de cette émission, donc on est toujours avec M. Collot et M. Domergue, qui militent pour l'école du troisième type, donc une école d'autogestion. Il y a la volonté de créer une de ces écoles dans le sud de Rennes, on a parlé au début d'émission. Donc, est-ce compliqué de créer une école du troisième type au niveau local ? Monsieur Domergue.
Écoutez, je pourrais vous en dire un peu plus à la rentrée parce que là, pour le moment, je manque un petit peu d'informations, mais en tout cas, on y travaille. On a quand même beaucoup de parents qui nous soutiennent. Quand on en parle autour de nous, c'est une idée qui est vraiment d'actualité. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup, j'espère en tout cas qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés à convaincre aussi. Oui, forcément, à un moment donné, il y a des décideurs politiques qui autorisent ou qui n'autorisent pas. Mais une fois de plus, je pense que l'idée majeure de cette école qui est de permettre à l'enfant de devenir qui il est, c'est important aujourd'hui dans notre société de pouvoir avoir des lieux comme ça pédagogiques qui proposent cette façon d'être aussi citoyenne, quoi, tout simplement.
Et comment les parents accueillent-ils le projet de création de votre école, Monsieur Collot ?
Moi, ça fait 20 ans que je suis à la retraite. Donc le problème n'est pas là. Mais moi, c'est un petit peu différent puisque c'était dans l'école publique. Donc aucun parent, à l'époque, c'était en 1960, il y avait très peu de parents qui savaient même qu'il y avait des pédagogies différentes. Voilà. Donc il a fallu travailler avec eux cette fois dans la transformation des comportements de chacun. Donc ce qui m'a imposé de travailler d'emblée avec les parents et non pas d'imposer une pédagogie. Maintenant, lorsque les parents ont le choix, ont fait le choix, ça devient différent. Parce que au bout de 2 ou 3 ans, les parents, cette fois, où ils étaient partis, dans une autre école, où ils étaient restés, donc c'était un choix. Alors là, ça change, parce que la collaboration, le travail ensemble... souvent, je dis, on ne savait pas au départ qu'on pouvait arriver à ça. On n'avait aucune idée. Mais nous y sommes arrivés, nous, c'est-à-dire les enfants, les parents, le village et moi. C'est tous ensemble que nous sommes arrivés à cette école qui est d'une autre planète.
Quelque part déjà un début de pédagogie.
Alors messieurs, on approche de la fin de l'émission comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce soir vous faites une conférence pardon, sur l'école du troisième type à Bain-de-Bretagne. Qu'attendez-vous chacun, monsieur Domergue et monsieur Collot, de cette conférence en quelques mots s'il vous plaît?
Bon, Bernard, je t'en prie.
Écoutez-moi, j'attends de discuter. De discuter parce que tout le monde est un chercheur en éducation. Dès qu'on a des enfants, dès qu'on a affaire à des enfants, on est obligatoirement un chercheur. En somme, je pense que ce soir, nous serons entre chercheurs et nous discuterons entre chercheurs. Et
Monsieur Demergue, en quelques mots, s'il vous plaît.
Oui, merci. C'est génial d'avoir Bernard ce soir avec nous parce que du coup, une fois de plus, et puis dans cette interview, il montre son ouverture d'esprit et ça, c'est vraiment très nourrissant aussi et on n'arrive pas du tout avec des dogmes, mais vraiment des idées et des envies ensemble d'avancer. Donc vous pouvez aussi du coup rejoindre la page Facebook de l'association à l'ombre du banyan, mais vous allez du coup peut-être également le repréciser.
C'est bon, vous l'avez fait.
Ok, parfait. Voilà, donc non, je suis ravi aussi de pouvoir ce soir d'être présent à la conférence avec Rosane et avec Satya et il va y avoir du monde, donc il y a des bons retours, des bons échos et on pourra pas recevoir tout le monde, mais... Ouais, je vous attends nombreux et nombreux ce soir à 20h.
Bernard Collot, Luc Domergue, merci beaucoup d'être venu ici nous parler de l'école du troisième type. On rappelle que on peut vous joindre sur votre Facebook à l'association L'Ombre du Banyan. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Antoine et Juliette et leurs invités, Bernard Collot et Luc Domergue. Ne zappez pas, de la folk rock vous attendent dans la découverte musicale destinée aux artistes John and Roy. C'est bientôt, on revient tout de suite après ça.